Oui, exactement. On parle d'un jeune homme de 14 ans, malheureusement, qui a été victime là-dedans. D'ailleurs, ce matin, la mère était sur nos ondes, nous racontait que son jeune fils a le syndrome de la Tourette, donc qui pourrait expliquer l'altercation. Et il y a un jeune homme de 14 ans qui a été arrêté aussi. Donc, lui a été amené du côté du centre jeunesse de Roberval, va comparaître devant le tribunal de la jeunesse, va faire face probablement à des accusations de voies de fait et menaces de mort. Donc, c'est ce qui fait jaser aujourd'hui.
Alors, on va aller écouter donc la mère de famille qui était sur nos ondes ce matin.
À chaque année, il y en a des nouveaux. Et puis mon fils, il a le syndrome de la Tourette, donc il a des tics. Puis ça tombe sur les nerfs de beaucoup d'élèves. Lui, il se fait beaucoup harceler à cause de ça. Mais la direction est au courant.
Et la direction est en studio, Mireille Boutin, qui est la directrice de l'école secondaire Charles Gravel. Bonjour Mireille. Je vais ouvrir votre micro, ça va mieux aller. Ça a dû être une journée relativement tumultueuse. Comment vont les élèves d'abord?
Les élèves vont quand même bien dans le contexte. C'est sûr que c'est un sujet de l'heure. Par contre, au niveau de l'école, on est quand même très rodé quand arrive une situation comme celle-là, même si elle est exceptionnelle.
Ouais.
On est rodé depuis quelques années, on s'améliore de fois en fois aussi, d'année en année, on se remet en question par rapport à nos mécanismes.
Vous êtes directrice depuis 3 ans, je pense, à Charles Gravel. On disait tantôt en ondes, parce qu'on en a fait un sujet, qu'on dirait que l'intimidation, on en entend parler depuis à peu près une décennie. Avant ça, moi je me souviens, quand j'allais au secondaire des années 80, personne ne parlait d'intimidation. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qui a changé, surtout du côté des directions d'école, pour qu'on soit en mesure d'avoir des mécanismes pour contrer l'intimidation? Parce que dans les commentaires qu'on recevait, des fois, il y a des gens qui disent je parle pas de vous, là, je parle en général. Oh, on a averti les professeurs, on a averti la direction, il n'y a rien qui se passe. C'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se passe.
C'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se passe, évidemment. Par contre, on s'améliore tout le temps, je le dis. Mais depuis 10 ans, particulièrement, on a bâti des protocoles d'intervention. On a un plan de lutte contre la violence et l'intimidation. On a des comités de travail, tant au niveau du personnel qu'au niveau des élèves qui travaillent sur ces problématiques-là et qui nous suggèrent des façons de faire. On se remet en question continuellement parce qu'on n'aime pas que ces choses-là arrivent, évidemment. Hein? Puis ouais. On travaille aussi à donner de l'information sur les mécanismes de dénonciation, sur les mécanismes aussi pour les témoins, pour les parents aussi. C'est nos premiers collaborateurs dans ces situations-là.
Oui, moi j'ai l'impression que les parents ne collaborent pas tant que ça. Surtout quand on reçoit un appel de l'école qui nous dit « Ben là, votre fils, il a fait un mauvais coup. » Est-ce que les parents réussissent à responsabiliser les enfants?
Ça fait partie des défis qu'on a.
Oui,
puis c'est le rôle de l'adolescent aussi de mettre ses parents un peu dans ces contextes-là. Par contre, nos parents sont là. On les appelle, on essaie de travailler avec eux. Dans la mesure où c'est possible, puis c'est souvent possible, on essaie de faire des consensus. On travaille autant au niveau de la victime que de la personne, de l'intimidateur, l'intimidé. On a une responsabilité sociale à cet égard-là. Puis
oui.
On est une maison d'éducation. Hein? Donc, on a ce volet-là qu'on doit... qui a changé probablement beaucoup au fil des ans avec les nouvelles problématiques qui arrivent, hein, avec les médias sociaux.
Oui.
C'est quand même un changement majeur dans les 10 dernières années.
Ouais.
Mais on a travaillé depuis 10 ans sur les protocoles, sur les plans de lutte à la violence et à l'intimidation, sur la communication. Maintenant, on a ça dans les agendas scolaires. On a des numéros où les jeunes peuvent appeler. On a mis aussi des structures au niveau de l'école, entre autres à Charles Gravel, pour accueillir les jeunes qui ont des difficultés, qui vivent des choses. On a des locaux d'accompagnement qu'on appelle où il y a des personnes ressources en permanence. On a des dîners structurés pour ceux qui ont plus de difficultés dans la masse des élèves. Ils peuvent aller dans des endroits spécifiques. On a des membres du personnel, des enseignants, des TES qui jouent avec les élèves sur l'heure du midi, entre autres pour les jeunes du premier cycle dans ouais. leur centre social. À tous les midis, on a des adultes présents qui voient aussi comment vont les enfants. Ils nous rapportent ça.
Ouais. Est-ce qu'il y a des mesures spéciales pour certaines clientèles? Puis je m'explique, le jeune homme dont il est question là, dans la nouvelle aujourd'hui souffre d'un syndrome de la Tourette. Sa mère faisait référence aux personnes handicapées. Ça a l'air, tantôt, tu sais, on parlait des gens qui ont de très bons résultats aussi, souvent ceux qu'on appelle les bols, qui sont souvent ciblés. Est-ce qu'il y a des interventions particulières auprès de ces groupes-là dans l'école où tout le monde est sur un pied égal?
Il y a, et pour n'importe quel groupe qui a des caractéristiques particulières, on a des interventions ou des mécanismes particuliers. Puis en même temps, adapté, mais c'est pas nécessairement à tous les élèves de ces groupes-là. Ça peut être, certains ont des besoins spécifiques, on y répond. D'autres sont plus à l'aise dans certains domaines, on tente d'y répondre aussi. On est très, très, très sur mesure en termes d'intervention. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'au niveau de la structure de l'école, l'aménagement de l'école, on a tellement de possibilités. Alors, oui, c'est exploité. Puis quand on a un parent, on a les plans d'intervention, on a les suivis d'élèves, on a le tutorat des enseignants, on a plein de mécanismes qui font qu'on a des moyens d'intervenir auprès des jeunes. Puis soyez assurés que tous les parents, quand ils ont des interrogations, sont accueillis par les directions, par les répondants, par les intervenants. Okay. C'est un beau travail d'équipe. Et en plus, on a des partenaires externes. Exemple, les policiers préventionnistes qui viennent dans l'école, qui marchent l'école avec nous, qui ont un rôle conseil aussi au niveau légal à notre égard, mais aussi à l'égard des jeunes, qui les informent. Et c'est très, très éducatif comme système. Puis c'est des choses qui existaient beaucoup moins, qui étaient élaborées différemment. Là, il y a 10 ans, on ne voyait pas beaucoup ça. Ces partenariats-là ont été développés au fur et à mesure des besoins. Puis on essaie de vraiment regarder ces situations-là avec plusieurs paires de lunettes. Alors, c'est intéressant. Ouais. Et on souhaite prendre soin des parents, de nos élèves d'abord. Autant, puis comme je vous disais tantôt, autant au niveau des élèves qui sont témoins, des élèves qui vivent des situations difficiles que ceux qui les font aussi.
OK. Mireille, sur la page Facebook, quand on a posé la question, la solution, là, je vais vous choquer, je vais en choquer certains, mais la solution numéro un qui revenait quand quelqu'un se fait intimider à répétition, une bonne claque sur la gueule, puis après ça, on n'en parle plus. Il y en a qui ont dit que c'est vraiment, malheureusement, la violence qui, après ça, l'intimidateur a arrêté. Je pense pas que ce soit la solution que vous recommandez. Quelle est votre meilleure solution pour mettre fin à l'intimidation?
On parle aux adultes rapidement, parce qu'on a des mécanismes et on intervient rapidement quand on a l'information.
Parfait.
On le dit à un adulte signifiant dans l'école et on va y répondre. Et nous, les directions, on est là aussi. Mes directions adjointes, nos professionnels, nos répondants, nos enseignants sont des personnes ressources. Alors, il ne faut pas se gêner. Faut dire, et on y arrive. Dans plusieurs situations, on a des beaux résultats. C'est sûr que des fois, on n'a pas la réponse qu'on souhaite, mais quand on ne l'a pas, on continue à chercher des solutions, puis on continue à intervenir systématiquement et rigoureusement. Puis ça, s'il y a un message là, que les parents, puis c'est avec les parents en passant, hein, c'est nos partenaires, c'est pas nos adversaires, c'est nos partenaires. Alors, puis ça, là, c'est extrêmement important.
Brisons la loi du silence, qu'on soit élève, qu'on soit témoin, qu'on soit professeur, directrice d'école.
Absolument, et les parents et les élèves sont les bienvenus dans nos systèmes.
Merci d'être passé en studio.
Ça fait plaisir.
Et puis, bon courage pour la suite. On espère le meilleur pour vos élèves. Vous l'avez bien dit, pour vos deux élèves, que ce soit celui, puis encore là, il y a deux versions dans cette histoire-là, mais les deux ont besoin d'aide, que ce soit celui qui a été tabassé ou l'intimidateur.
Absolument.
C'est ce que je retiens de notre conversation. Merci beaucoup d'être passé en studio. Mireille Boutin, la directrice de l'école secondaire Charles Gravel. Il y a eu une altercation hier qui a mal tourné. Un des jeunes de 14 ans s'est ramassé à l'hôpital et l'autre jeune a pris le chemin du centre jeunesse de Roberval. Il devait répondre cet après-midi de ses actes devant la Chambre de la jeunesse.